fruit de la passion vous fait voyager dans l'univers de passionnés.
Je suis Adrien Giordana.
Je m'appelle Elodie.
Mon nom c'est Guillaume Blair.
Je m'appelle Mark Reynolds.
Fruit de la passion vous emmène là où le voyage commence.
Ma passion c'est la pâtisserie.
Je suis trapéziste.
Ma passion est sur les plantes médicinales.
My passion is Bitcoin.
Ma passion, je dirais, c'est détective privé.
C'est par un heureux hasard que je rencontre Jaïs Elalouf. Alors que nous étions tous deux réunis dans un même lieu, nos regards se croisent une fois, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que l'un de nous deux se décide à faire le premier pas. Sa chemise à fleurs colorées et sa bague en forme de fleur de vie m'intriguent. Mais qui es-tu, Jaïs Elalouf ? Il me répond d'un grand sourire. Tu sais, ça prendra un peu de temps et un bon thé pour que je te fasse la liste de ce que je suis. Je lui propose alors qu'on se rencontre à nouveau, autour d'un thé, pour découvrir qui est ce grand chevelu à la chemise fleurie. Quelques jours plus tard, me voilà chez lui, dans l'antre d'un collectionneur d'art psychédélique. Des figurines en tout genre, des livres par dizaines, et des vinyles par centaines composent la décoration intérieure de son appartement. On s'installe dans son canapé, le thé est prêt, et Jaïs aussi. Nous voici partis pour une odyssée au cœur de son monde. Vous écoutez les fruits de la passion, et c'est dans l'univers de Jaïs que vous voyagerez aujourd'hui.
Je m'appelle Jaïs Elalouf, je suis à la fois artiste audiovisuel, collectionneur d'art psychédélique, et responsable de l'agence Ping Pong. Eh ben, vous vous trouvez chez moi, c'est-à-dire dans l'antre de cette collection psychédélique.
Qu'est-ce que l'art psychédélique ? À la fois obsession du détail, obsession de la couleur, ça c'est très important. Toujours une obsession du détail et de la couleur, ça c'est quelque chose qui est assez omniprésent. En même temps, l'art peut être très sombre et ça peut être sombre et psychédélique, c'est pas... Mais il y a une sorte de liberté absolue par rapport au fait que le noir, si tu veux, ça reste une des milliers de couleurs de la nature. Mais et c'est non, c'est pas une, je dis le noir, les couleurs sombres qui sont plus utilisées dans d'autres formes d'art. Donc ça c'est important. Un deuxième aspect, c'est les illusions d'optique. Donc c'est un art qui essaie de te faire partir l'esprit, et aussi le fait que tu aies une illusion d'esprit, une illusion d'optique, ça le rend psychédélique, ça révèle l'âme. Un autre aspect, c'est l'aspect spirituel. Donc ça, on en a un peu parlé. Avant-dernier aspect, c'est le côté surréaliste. Et enfin, dans l'obsession du détail, il y a aussi les différents niveaux de lecture. C'est-à-dire que tu vois quelque chose et tu t'aperçois que c'est autre chose. Ou tu vois quelque chose d'abstrait, tu te dis « Ah, ben, c'est des gouttes ». Et puis quand tu regardes bien, en fait, ça raconte quelque chose. Enfin, il faut qu'il y ait à peu près deux facteurs des six dont je t'ai parlé. À partir de là, on va pouvoir explorer tous les médiums, sur la mode, sur la littérature. Dans la littérature, ça rejoint le même principe, ce principe d'harmonie universelle, de surréalisme, de spiritualité, de détail, de liberté d'esprit, d'ouverture d'esprit, de libérer ton esprit. Ouais. On va dire que toute la Beat Generation, bah par exemple Kerouac, et toute la Beat Generation, c'est-à-dire Allen Ginsberg, William Burroughs, c'est des auteurs qui sont des années 50. Ils sont à la fois punk et attirés par la spiritualité et la nature. C'est un mouvement qui s'appelle la Beat Generation, qui était principalement à New York, mais aussi à Paris. Et ils venaient très souvent à Paris, ils venaient dans un hôtel qui s'appelait le Beat Hotel. Ils étaient très ouverts au point aussi toucher à l'homosexualité sans vergogne. Chose dans les années 50, c'était même pas pensable. Ginsberg était homosexuel et William Burroughs aussi. C'est très important de comprendre la Beat Generation parce que c'est la base du psychédélisme finalement. C'est ce qui a catalysé, ça a été le catalyseur du psychédélisme. Et c'est un mouvement qui est mort assez rapidement. Le prolongement naturel, ça a été le psychédélisme en 66, 65, 66. Mais le plus connu, ce serait Ken Kesey. Et alors, bon, Ken Kesey est passionnant. Alors ça, on va le garder pour la deuxième partie. C'est le personnage central du psychédélisme avec Timothy Leary.
Ça s'écoutait la phase B.
C'est un art qui se transmet partout, à la fois sur tous les pays et tous les médiums. C'est-à-dire que c'est pas lié à un pays, même si ça a été très très fort dans les années 60 aux États-Unis. C'est parti de là véritablement, mais ça s'est transmis, bon bah évidemment à tous les pays, mais dans tous les pays en même temps, il y a eu cette envie d'avoir des œuvres un peu plus spirituelles, colorées, avec en gros des choses délirantes, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que l'art psychédélique, l'idée c'est de faire passer cette révélation de l'âme, si tu veux, par tous les moyens possibles. Donc ça peut être par un côté très technologique. Donc ça peut être, je sais pas, les Google Glass, les machins, les trucs, c'est... Il n'y a pas de limite, en fait, à ça. La littérature, effectivement, mais la BD, à fond les ballons de la BD, avec Lone Sloan, c'est Druyet, t'as Barbarella, de Forest, tu vois Barbarella ? Barbarella, icône absolue des années 60, française, film culte, avec une blonde complètement... je crois qu'ils sont dans une planète un peu bizarre, elle est un cosmonaute, très sexy, c'est un peu une sorte de James Bond, un peu, mais qui est très iconique, quoi, de cette époque-là. Et surtout, c'est une BD à la base. Les mêmes valeurs, très barrées, des couleurs, des machins, des sortes de double pages incroyables. Enfin, en fait, le psychédélique casse les codes. Il va casser les codes dans tous les sens. Il va casser les codes de la BD, il va casser les codes de la littérature, il va casser les codes de la mode, du théâtre, du happening, mais même du jeu d'acteur, complètement. Je sais pas si tu vois les happenings. Dans les happenings des années 60, c'est-à-dire ce qu'on appelait le théâtre libre, mais totalement libre, et c'était libre, c'était un peu trop libre même des fois. Un qui l'a beaucoup exploré, c'est Jean-Jacques Lebel. Alors lui, c'est un descendant direct des surréalistes, et il a inventé un peu le happening. Par exemple, il y en a une qui en faisait beaucoup, c'était Yayoi Kusama, qui est une peintre... assez connue, qui a maintenant 95 ans, qui a encore en vie japonaise. Comme ça, je parle de ça parce qu'elle mettait beaucoup de personnes nues, et elle les laissait se balader dans la ville, elle prenait des photos, c'était peinture lurée et tout. Imagine, les gens étaient complètement choqués. Ce qui est très intéressant, c'est aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est les valeurs. Les valeurs du psychédélisme, c'est des valeurs humanistes, globalement, de protection de la biodiversité, d'égalité entre les hommes, d'égalité entre les hommes et femmes d'ailleurs. Et c'est aussi, à la fin des années 60, cette prise de conscience généralisée a commencé fin 60. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces luttes incroyables. Ce que je veux dire, c'est que cette utopie, cette ouverture d'esprit, elle dépasse largement l'étiquette qu'on pourrait mettre de hippie, en fait. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que une fois que t'as compris ça, t'as plus besoin de mots pour appréhender une œuvre et tout ça. Tu sais que c'est... tu sais d'où ça vient, en fait. Mais ça va donc des pharaons à Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, ça date du 15e siècle. Donc c'est des tableaux qui sont complètement psychés, je trouve, mais qui datent du 15e siècle. Donc cette sensibilité, pour te donner les plus connus, on va passer, tu connais peut-être Klimt. Globalement, l'art nouveau est très psyché. Les deux liens directs pour comprendre le psychédélisme, si je devais simplifier, c'est tu mélanges art nouveau et tu mets du surréalisme, tu mélanges, c'est de l'art psychédélique. Dans l'art nouveau, on dirait Klimt, dans le surréalisme, on peut penser forcément à Dali. Et lui, il dépasse le surréalisme un peu à la Picabia, plus rigide, plus conceptuel. Et aussi Vasarely. Vasarely, c'est des formes très géométriques. Il va te prendre un rond avec des carrés dedans, et tu vas avoir une boule qui sort, qui rentre comme ça. Comment j'en suis venu à avoir cette collection ? C'est que je suis artiste audiovisuel. Ben, je réalise des clips et je les mixe entre eux. Les films français des années 60, en passant par l'animation des années 50. J'ai eu la chance de pouvoir tourner dans les instituts français à travers le monde et dans beaucoup de festivals de films. Et donc, j'ai donné 500 concerts dans 40 pays. Et à chaque fois, mon obsession, c'était de faire le petit marché local. Je ramenais un truc ou des fois, je ramenais rien. C'est intéressant de comprendre que j'en ai trouvé autant au Mali qu'au Ghana, qu'au Brésil ou en Chine. Donc, on va passer au mouvement psychédélique des années 60. Donc, tout d'abord, on va s'attarder à la période après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 45-70. Qu'est-ce qui s'est passé? Une croissance démesurée. Les gens consomment énormément de tout de manière irresponsable, mais surtout, ça, chez certaines personnes, bah d'abord ceux de la Beat Generation et puis la génération psychédélique, grâce aux psychédéliques, grâce aussi aux drogues, parce que ça a aidé, mais pas que. Il n'y avait pas besoin d'en prendre pour te rendre compte que c'était complètement absurde et futile d'avoir 2 bagnoles et 3 frigos. Ils vont se rendre compte qu'il y a un problème derrière ça. Il y a l'histoire de la guerre, les guerres. Il y a quand même une tension qui est ultra forte entre l'URSS et les États-Unis. Il y a une parano énorme, une pression incroyable. La guerre froide, c'était pas drôle. Donc il y a cette espèce de tension forte, de surconsommation complètement abusée, et la guerre du Vietnam, juste avant la génération psychédélique, qui est complètement absurde, qui rime à rien. C'est un éveil de conscience global. Du coup, les hippies, ils viennent justement de ça. D'ailleurs, ça vient le mot « hanche » ou « hype », ça vient du côté décontracté. Alors, en France, ça a eu, on les a appelés les « babacools », quoi. Donc, c'était super péjoratif. Mais en même temps, qu'est-ce que c'était les « babacools » Finalement, c'était des gens quand même... Bon, évidemment, il y en avait qui fumaient beaucoup de pétards, mais ils avaient un idéal de vie, ils allaient au bout de leur idéal de vie. Au début, les hippies ont tenté de faire une aventure commune. La fameuse aventure commune, c'était à San Francisco. San Francisco, en 67, il y a le Summer of Love, l'été de l'amour. Donc, il y a plus de 100 000 personnes, des hippies, qui sont arrivées de la terre entière. T'as plein de chansons là-dessus. Hein. You go to San Francisco. Pourquoi San Francisco? San Francisco, c'est là où sont la plupart des beatniks. Je vous avais dit New York, mais aussi surtout San Francisco. Beaucoup de gens reviennent là-bas avant même l'époque hippie pour se reconnecter à l'ambiance dans laquelle étaient les beatniks. Les beatniks, c'est les pré-hippies. Mais pas du tout hippies, ils sont comme ça, droits, machin, et ils sont très portés sur l'alcool. Souvent, ils sont attirés par la poésie, le théâtre. C'est une ville très artistique, très libre, pas cher en fait, c'est vraiment pas cher. Tout le monde cohabite, c'est vraiment à la cool quoi. On va remonter encore un peu avant. Avec la guerre du Vietnam, les États-Unis croient avoir découvert une arme de contrôle de la pensée. Cette arme, c'est le LSD. Donc ils vont faire plein de tests sur des cobayes. Les cobayes, c'est très souvent des étudiants. Ils te filent $50, tu prends un LSD et ils te testent. Seulement, il va y avoir ce qu'on appelle la révolte des cobayes. Il y en a beaucoup qui vont en prendre et ils vont trouver ça super bien. Et vu que c'est en vente libre... Du coup, il y en a qui vont en prendre à côté. Là, on parle de ça, on est fin 50, tournant. Et donc là, il va y avoir deux grosses personnalités qui vont naître. Côte Est, t'as Timothy Leary, qui est un prof à Harvard, un gros prof à Harvard, important, qui va commencer à en donner à ses étudiants. Mais il ne va pas en donner 50, il va en donner 2000. Évidemment, ça revient... Et il est avec d'autres profs. En plus, à l'époque, ça devait être méchamment dosé, quoi. Il est plutôt dans un aspect spirituel, donc. C'est pas récréatif, c'est pas pour en profiter entre potes. C'est pour un enrichissement spirituel et pour trouver qui t'es vraiment. Donc, il se fait virer d'Harvard et il se met copain avec la fille de Charlie Chaplin qui a une énorme baraque à Westbrook, 2-3 heures de New York. Et là, il a une baraque avec un terrain monumental. Et il fait ses expériences là-bas, peinard, avec plein de gens qui viennent le voir. De l'autre côté, tu as Ken Kesey, à San Francisco, qui, après avoir fait ses expériences, il était comme tous les autres étudiants, quoi. Il prend goût, il en prend avec des potes, et ils font un mouvement qui s'appelle les Joyeux Lurons, les Merry Pranksters. Lui, entre-temps, il est inspiré par ce qu'il a vu, il faisait prendre des acides dans des hôpitaux psychiatriques. Ça m'inspire, il écrit Vlotunenikuku devient un méga best-seller. Avec le fric, il achète un énorme bus, une baraque. Dans la baraque, ils font des énormes tops. C'est complètement précurseur des raves. On est en 64. Hein. C'est vraiment 64-65. C'est vraiment bien avant l'époque psychédélique même. Tu vois. Il achète un bus, il le peinture lure de toutes les couleurs. Et ils partent à travers les États-Unis. Et ils vont aller jusqu'à aller voir Timothy Leary. Ils partaient pas pour ça, hein. Ils allaient sur la route pour faire ce qu'on appelle des acid tests. Donc tu peux donner des acides à plein de gens. Et si ça se passait bien, bah t'avais ton diplôme. Leur tagline c'était « Can you pass the acid test ?» Est-ce que vous pouvez passer l'examen de l'acide ? Eux, ils étaient vraiment dans un délire récréatif. Hein. Ce que défend Timothy Leary, c'est l'autre aspect du psychédélique, c'est le set and setting. Où tu le prends, avec qui tu le prends, comment tu le prends. Donc si tu respectes ces trois principes, tu n'as pas de problème à prendre du LSD. Tu peux en prendre, il n'y a pas de problème. Alors là-dessus, on n'a pas parlé, mais il y a une ouverture sur la révolution sexuelle à ce niveau-là qui est débridée. Sauf qu'évidemment, il y a une censure aussi qui est débridée. Et ça va mettre un peu plus de temps à voir le jour. En musique, si tu compares ça là, un an avant ça, il n'y avait que du rock à papa. Alors un truc, révolution musicale, sonique, sexuelle, tout arrive en même temps, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, c'est tout ce que je t'ai raconté, ça arrive en 3 ans, tout arrive en même temps. Je vais te montrer des œuvres. Qu'est-ce qui propage toutes ces idées ? C'est il y a une presse indépendante, une presse libre, qu'on appelle la Free Press. Et toutes ces idées dont on parle, qu'est-ce qui rejoint le ciment de tout ça ? C'est la contre-culture. Et la contre-culture, elle se diffuse principalement par des groupuscules qui veulent dire librement ce qu'ils pensent sans avoir de censure. C'est un truc tout bête, mais c'est très compliqué. Mais finalement, de nos jours, c'est un peu la même histoire. Il y a une autre forme de censure qui est la censure du... C'est une autre forme de censure. Sauf que là, on a une liberté absolue, on croit. Et donc, t'as plein de magazines. Bon, certains sont sur la spiritualité et la poésie, mais il y a toujours cette notion de contre-culture. Il y en a vraiment beaucoup en plus. Hein. Je tombe jamais sur les mêmes. Je peux te laisser un peu le feuilleter très délicatement parce que c'est. C'est très fragile, donc là on est complètement dans le psychédélisme. Hein. Mm-hmm. Je comprends tout ce que je t'ai dit avant, je redécris plus. Mais alors, tu vois, à la fois on est dans cet art esthétique, la poésie, complètement libre, et aussi il y a quand même des revendications. How I Wonderwar. Et toujours, ce qui est très intéressant, c'est ce second degré et ce côté finalement très intelligent d'analyse et de second degré, de sous-entendu, d'humour, qui est incroyable en fait, qui est vraiment intellectuel quoi, c'est vraiment intéressant. C'est un mélange d'intellectuel et de laisser aller. Donc si tu veux, regarder deux secondes, je vais te faire un autre. Ouais, non. Très fragile et très très cher aussi.
Tu les as trouvés.
Don't buy anything. Tu vois ce que je veux dire, c'est un mélange total de ces. Ben, je collectionne depuis 15 ans de manière compulsive. Donc,
Derrière moi, vous avez une œuvre de Marcel Lenoir qui est une estampe d'Art Nouveau, mais aussi une œuvre de Roland Topor pour le film La planète sauvage, donc dans un univers plus fantastique, cartoon, on va dire, 73. Par là, vous avez des œuvres d'art huichol, donc des tribus huichol du Mexique, toutes faites en tableau de fil. Donc on pourrait dire que c'est plutôt des influences de l'art psychédélique. Et encore là-bas, vous avez un tableau de Hong Sung Chul qui est fait à partir de fils, mais alors là, pour le coup, c'est des élastiques tirés où il y a une photo qui est prise dessus, donc ça donne un effet visuel assez intéressant, donc optique en tout cas. Donc ça, c'est de l'art contemporain, classique, enfin, art contemporain classique, ça ne veut un peu rien dire, voilà. Et enfin, ici, on a un tableau de Postic, Josiane Postic, qui est de l'art brut, en fait, de maintenant. C'est-à-dire de l'art de personnes qui n'ont pas étudié les beaux-arts, qui font ça spontanément, et donc qui, encore une fois, rejoignent complètement l'art psychédélique par leur obsession du détail, de la couleur et de l'aspect spirituel. Là, c'est une planche de BD d'un artiste qui s'appelle Cézépé, donc de la fin des années 70, début 80, qui est entre punk et psychédélique, mais donc pour montrer juste que cet art-là s'est infiltré vraiment dans tous les styles possibles.
Retrouvez toutes les informations sur le site choc.ca, rubrique émission, fruits de la passion. Je vous donne rendez-vous pour un prochain voyage dans l'univers d'un passionné d'objets rares et d'amour en tout genre.